Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans toute une vie, à la découverte de vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et les suivantes. Être femme et peintre au XIXe siècle, ça n'était pas donné. Malgré son pinceau virtuose, malgré ses facilités, Rosa Bonheur a eu peu de soutien en dehors d'un très abstrait appel à la bienveillance de Dieu de la part de son père. À l'heure où l'on s'interroge sur notre cohabitation avec le monde animal, toute une vie vous raconte aujourd'hui le parcours de celle qui a choisi les bêtes, sujet moins difficile à côtoyer que l'humain. C'est avec ses tableaux de bœufs, de cerfs, d'agneaux et de chevaux qu'elle accède à la célébrité et à une certaine liberté, notamment celle d'aimer Nathalie.
C'est un génie frère de George Sand, mais elle n'a pas ce côté bucolique. Il y a trop de violence.
Voilà, donc là, on est déjà devant la demeure principale, donc qui était habitée par l'artiste.
Moi, je dis aussi, c'est une lionne dans la bergerie. Non, Rosa Bonheur, évidemment, elle dérange, mais en même temps, c'est intéressant parce que ça montre que on ne peut pas voir.
Donc l'atelier, deux petits bureaux attenants. Et tout ça est resté en état depuis le 19e, depuis donc la mort de Rosa Bonheur en 1899.
Elle a vécu comme elle a voulu et avec cette espèce de volonté absolue et inflexible, qui n'est pas exempt d'orage d'ailleurs. On flaire, mais c'est dans le non-dit. Les vraies difficultés qu'elle a pu avoir avec ses frères, un certain nombre de choses sur lesquelles, disons, voilà, on a tous, tout le monde a jeté au XIXe siècle un voile assez pudique, mais on sent effectivement que ça ne devait pas être facile tous les jours avec elle.
Oui, c'est un bélier. C'est vrai, elle est du signe du bélier, si je peux me permettre de faire ces références-là, donc ce n'est pas étonnant qu'elle ait peint des animaux. C'est un tempérament de feu. Donc évidemment, c'est quelqu'un d'autoritaire. Évidemment, je dirais, il faut quand même qu'elle s'affirme. Pour s'affirmer, elle ne peut pas être une tendre brebis, comme elle dit à propos des femmes que l'on mène sur l'autel du mariage. Ce n'est pas du tout ça comme tempérament. Hein. Elle est vraiment très, très affirmée.
Rosa Bonheur, peintre animalière ambitieuse et femme à facettes. Rosalie, dite Rosa. Un père peintre, deux frères et une sœur artiste. Une femme pure qui cherche les honneurs. Une idéaliste, pragmatique. Une marginale, conventionnelle. Mais surtout une peintre de la vie agricole et de la vie sauvage. Une artiste qui réserve à ses scènes de genre le format démesuré de la peinture d'histoire. Une peintre qui, comme Vernet, Bracassa ou Meissonnier, a besoin d'une étable et d'une écurie pour abriter ses modèles. Une femme qui aspire au calme, avec Nathalie Mika, dans son domaine de la parfaite amitié. Une peintre du groupe de Barbizon, qui peint la nature et le paysage sur le motif. Rosa Bonheur est à la fois anguille, lionne, renarde, inséparable, mule et bélier, mais elle est aussi un agneau qui vit dans le souvenir de sa mère.
Donc là, on a un portrait de Rosa Bonheur qui a 2 ans. Ce portrait a été fait par son papa, donc Raymond Bonheur. C'est une peinture un peu naïve. Hein. On voit
Christelle Leboeuf.
Cette petite fille en costume du dimanche avec un panty blanc au liseré orangé. Les chaussons pareils, la robe blanche au liseré orangé. Elle tient dans ses bras croisés un petit polichinelle. Dans la main droite, un pinceau et un crayon. Hein. Et à ses pieds, une feuille de dessin. Alors cette feuille de dessin est due aussi à sa maman, Sophie Bonheur. Rosa Bonheur n'était pas une adepte de l'école, et voilà. Et donc sa maman va décider de lui apprendre à écrire et à lire, surtout en lui dessinant l'alphabet en rapport avec les animaux. Oh, voilà.
Il y a un petit bonhomme.
Il y a un petit bonhomme, hein, voilà.
Et des petits animaux, justement.
Tout à fait, voilà.
Marie Bourin, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des origines de la mère de Rosa Bonheur? Parce que ses origines sont assez mystérieuses et ça aura son importance dans la vie de Rosa Bonheur.
Alors sa mère, Sophie Bonheur, on ne sait pas qui est sa mère. C'est-à-dire que la grand-mère de Rosa Bonheur est inconnue. On sait que son père, Dublanc de la Haye, était un amant d'une personne, d'une femme de la famille royale. Donc on pense que la grand-mère de Rosa Bonheur était de sang royal. Mais comme c'était sans doute une mésalliance, jamais le nom de la mère n'a été prononcé, de la grand-mère de Rosa Bonheur.
Sophie Bonheur est très très féminine. Regardez ce visage plutôt longiline.
Elle est très
fine. Très blanche, hein. Oui, tout à fait.
Hein. Et un chignon noir.
Un chignon noir, elle était très brune. Voilà, donc elle ne fait pas du tout en opposition à Rosa Bonheur, qui a un visage carré, très masculin. Voilà. Sophie Bonheur était professeure de piano aussi. Hein. Alors, il faut dire aussi qu'avant la déchéance un petit peu de la famille, Sophie Bonheur et la famille Bonheur vivaient très bien, puisqu'elle avait été adoptée par la famille Dublanc de la Haye. Dublanc de la Haye était un notable bordelais. Il donnait de l'argent à la famille pour qu'ils vivent aisément. Monsieur Dublanc de la Haye va décéder. Et M. Dublanc de la Haye a une femme et un fils, Hippolyte. Et au décès de M. Dublanc de la Haye, sur son lit de mort, il dit à Sophie Bonheur qu'en fait, c'est sa vraie fille, issue d'un deuxième lit. Et donc, qu'il l'a adoptée, mais qu'elle est vraiment sa fille à lui. Et donc, qu'elle peut avoir l'héritage. La famille Dublanc de la Haye va entendre ce discours. Et Sophie, étant dans le chagrin, ne veut pas aller voir dans le secrétaire tout de suite ses papiers. Tort à elle, puisque quelques jours par la suite, quand elle revient pour chercher ses papiers, les papiers ont disparu. Donc elle ne va jamais profiter de l'héritage de M. Dublanc de la Haye, et c'est de là que la déchéance de la famille Bonheur va arriver. Alors, pas de fortune, pas d'argent, Raymond Bonheur qui ne travaille presque pas, du coup ils vivent dans la misère, c'est pour cela qu'ils montent sur Paris pour essayer de gagner un petit peu plus de sous.
Alors à quoi ressemble justement l'enfance de Rosa Bonheur quand elle est encore à Bordeaux ?
D'abord, elle est très libre, on la laisse faire ce qu'elle veut, donc elle raconte comment elle s'était perdue, on l'avait retrouvée à place des Quinconces, donc loin de son domicile, et il y avait les arbres, il y avait la Garonne, enfin, et il y avait évidemment Quinsac, donc le château du Dublanc de la Haye, où il y avait des étables, donc elle pouvait se faire lécher la tête par des vaches laitières, enfin ça fait partie des souvenirs les plus précieux de Rosa, qui très tôt manifeste un grand amour pour les animaux, voilà. Avec le contraste quand elle va arriver à Paris où elle va perdre tout ça et ça va être très dur pour elle.
En 1829, elle a 7 ans. Alors à ce moment-là, quels sont les changements dans la vie de famille au moment de cette arrivée à Paris ?
Mais les changements, c'est que Paris est une ville où il n'y a pas d'arbres, enfin pas assez aux yeux de Rosa, où le père Raymond Bonheur a beaucoup de mal à trouver des clients, des élèves. Il est un peu fantasque, donc il ne gagne pas sa vie correctement, pas suffisamment pour faire vivre une famille de 5 personnes. Et donc c'est déjà Sophie Bonheur, la mère de Rosa, qui commence à travailler. Donc elle donne des leçons de piano le jour et elle commence à faire de la couture le soir pour subvenir aux besoins du foyer. Voilà. Et c'est à cette époque, Raymond Bonheur va s'enflammer pour le saint-simonisme et c'est le début de la tragédie de la famille Bonheur. Le saint-simonisme est très intéressant, c'est un très grand mouvement, mais le problème c'est qu'il va y avoir une cassure dans le mouvement à cause de la dérive d'Enfantin, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, il y a Bazard et Enfantin qui sont les deux chefs, ils vont se disputer. Au départ, ils ont vraiment cette discipline de vouloir abolir la domesticité, donc il n'y a pas de domestique, quand ils vont s'enfermer dans le couvent de Ménilmontant, chacun va participer aux tâches de ménagères de tous, enfin du couvent, mais Enfantin va dériver vers, alors au départ c'est la libération des femmes hein, et la libération des ouvriers, mais le problème c'est que très vite il va dériver vers la libération des mœurs, et enfin à l'époque c'est inconcevable, c'est-à-dire que il y a un article qui est publié dans lequel il dit que finalement l'amour c'est presque l'échangisme, quoi. Il faut vraiment que tout le monde aille vers tout le monde, donc il va y avoir une cassure dans le saint-simonisme et Enfantin va vraiment aller vers une secte, va s'isoler, et très bizarrement Raymond Bonheur va rester fidèle à Enfantin, et c'est là qu'il va s'enferrer dans un mouvement qui d'ailleurs va être dissous, en tout cas officiellement, très peu de temps après.
Rosa Bonheur, toute sa carrière est
Marie-Jo Bonnet, historienne.
Son antécédent saint-simonien. Vous savez que son père a fait partie des saint-simoniens rue de Ménilmontant. Il est allé vivre là-bas. Il lui a transmis l'idéal saint-simonien d'émancipation de la femme. Et elle, évidemment, elle était enchantée. Mais derrière, il y a la présence de sa mère. Dans ses souvenirs, dans ce qu'elle raconte à Anna Klumke, elle dit par exemple que Nathalie ressemblait à sa mère hein, quand elle l'a vue pour la première fois. Et que souvent, elle faisait des rêves de sa mère qui la protégeait. Donc, vous voyez, il y a une espèce de figure tutélaire qui est derrière elle. Bon, c'est une femme qui est autoritaire, mais en même temps qui a un imaginaire qui est très développé. Hein. Elle est médium également, Donc vous voyez, c'est un tempérament très très fascinant finalement. Hein. Et sa mère qui est morte quand elle avait 12 ans, qui s'est tuée à la tâche, hein, comme elle dit, pendant que son père était avec les Saint-Simoniens, elle lui a voué un amour éternel. Hein. Moi je pense que c'est là l'origine de son homosexualité. Là, vous voyez, elle est très double, c'est-à-dire il y a le côté paternel et le côté maternel qui sont très forts. Et elle en fait une sorte de synthèse. C'est passionnant comme personnage.
Alors, quand la mère meurt, le père sépare les enfants, donc les frères vont en pension et Juliette repart à Bordeaux chez la nourrice. Et donc, Rosa Bonheur reste seule avec son père pendant plusieurs années, c'est pas rien. Hein. Et il va essayer d'en faire une couturière, donc il va la placer à peu près dans plusieurs institutions et à chaque fois, elle va mettre en échec toutes les tentatives pour en faire une couturière. Elle ne veut pas devenir comme sa mère. Et quand sa mère meurt, elle dit « Je jure de relever la femme et de venger ma mère. » Elle veut devenir peintre. Et son père s'y oppose. Et comme elle fait échouer, mais vraiment elle fait échouer toutes les tentatives, il va finir par accepter de la former. Et c'est son père qui va donner des leçons de dessin à sa fille. Mais son père, c'est l'école classique, hein, c'est David, donc il va former sa fille selon le dessin. C'est vraiment peindre ce que l'on voit et non pas ce que l'on imagine. Et c'est vraiment le dessin qui prime. Elle dira toujours d'abord apprenez à dessiner. Et donc elle apprend vraiment et elle a un don extraordinaire de dessin.
Et elle va au Louvre avec tous les autres peintres.
Très jeune, elle va se retrouver au Louvre avec les rapins et c'est là qu'elle commence à dire qu'elle est agressée par les garçons, évidemment, puisqu'ils ne veulent pas de femme. Alors son père lui recommande la meilleure tenue et là on a une photo d'elle hein, en robe et alors elle se tient tellement raide qu'on l'appelle le petit hussard. Donc voilà, c'est à partir de 13-14 ans qu'elle commence à aller au Louvre et à 12 ans elle commence à se former et elle va gagner sa vie très tôt grâce aux copies qu'elle fait des vieux maîtres.
Ma Juju chérie, je veux gagner beaucoup d'argent, car il n'y a qu'avec ça qu'on peut faire ce qu'on veut. Si j'en avais eu assez, cette année, tu serais venue avec moi. J'ai réussi à rester incognito, mais à présent, je reçois des cartes de partout. Mon hôtelier est tellement fier de m'avoir qu'il se promène dans les rues en chantant mes éloges. Tous les gens de la campagne m'aiment. Mariano, célèbre contrebandier, se vante de n'avoir jamais posé pour quiconque, sauf pour moi. Il se promène partout en disant qu'il donnerait sa vie pour moi. Il y a ici une grande montagne où les vaches font des choses merveilleuses. Elles partent au galop, exécutant des virages et se tordant et brandissant leur queue en l'air quand il y a une mouche qui les embête. C'est un pays pour artistes. J'ai l'intention d'y revenir et de pousser jusqu'en Espagne. Que dirais-tu si je t'avouais les efforts que j'ai faits pour résister au désir de ramener un mouton et une chèvre? Je ne puis rien y faire. J'aime tant les petits moutons. Rosa Bonheur à sa sœur Juliette, septembre 1853.
Elle a été médaillée très tôt, elle avait 18 ans. À votre avis, qu'est-ce qui faisait la spécificité, l'originalité, qu'est-ce qui fait que finalement elle a été connue, reconnue très tôt,
Emmanuel? Je pense
Héron,
que c'est le
conservatrice.
Il y a un petit mélange de curiosité, à savoir une femme, voilà qui est étonnant, une jeune fille, un fort tempérament qui s'est tout de suite su dans la presse, qui a tout de suite été relayé par les médias de l'époque. Elle a une virtuosité qui est assez fabuleuse, hein. Ses esquisses le montrent très bien, elle a un sacré coup de pinceau quand même. Je pense qu'il y a aussi chez elle, là, justement grâce à cette virtuosité, la possibilité de répondre aux commandes. C'est pas du tout un artiste laborieux, alors elle est consciencieuse, mais ça sort assez vite sous le pinceau. Donc elle a une productivité qui est quand même assez fantastique, et encore il y a des œuvres qu'on n'a pas retrouvées, à mon avis on va encore en retrouver pas mal. Donc... il y a ce mélange comme ça qui lui permet d'émerger et de se faire connaître finalement.
Rosa Bonheur, c'est à peu près 2000 œuvres de répertoriées. Donc c'est une très belle collection, hein, éparpillée dans le monde entier. On va retrouver encore des juments, des biquettes, voilà. Alors les chevaux sont très représentés, hein, comme ses chiens aussi, Barbaro, tout ça, qui vont être souvent représentés. Voilà.
Est-ce que vous pensez, Marie-Jo Bonnet, qu'elle est particulièrement exceptionnelle par rapport à la possibilité d'être une artiste quand on était femme au XIXe siècle.
Oui, oui, elle a ouvert beaucoup de voies parce qu'il ne faut pas oublier que le XIXe siècle, c'est le siècle pire pour les femmes artistes. Au XVIIIe siècle, les artistes pouvaient intégrer l'Académie royale de peinture et de sculpture. Hein. Vigée Lebrun, elle a été admise en 1783, grâce à la reine, entre parenthèses. Donc, il y avait un lien entre le pouvoir royal et les artistes. Et au XIXe siècle, c'est totalement terminé. Les artistes sont mis à l'écart de toutes les institutions qui ont été mises en place sous la Révolution. Et la seule liberté qu'elles ont, c'est de participer au salon, qui a lieu donc une fois par an. Et Rosa Bonheur, donc, elle a eu la première médaille d'or en 1848. Donc c'est une période exceptionnelle, 1848, parce que c'est la Révolution de 48.
On a tendance,
Philippe Luez,
à enfermer une image du 19e siècle où la femme aurait une place assez proche de, je sais pas, des femmes de l'Angleterre victorienne, c'est-à-dire confinées aux travaux ménagers, aux arts d'agrément et à l'éducation des enfants. Et finalement aussi, on est condamné par cette image qui est partiellement fausse de femmes qui ne livreraient au salon des artistes vivants, que des sujets de gens qui seraient de jolis bouquets de fleurs ou éventuellement des petits lapins et des petits chats. Alors que quand on regarde les livrets des salons, on se rend malgré tout compte que les femmes sont assez présentes dans le salon et pas nécessairement uniquement enfermées dans la peinture de fleurs sur porcelaine. Même si, effectivement, d'un premier regard, c'est un petit peu l'image qu'on en aurait. Paradoxalement, d'ailleurs, on le voit dans le Fumoir Cardot, les grands peintres de fleurs de l'époque, regardez Saint-Jean, il est complètement contemporain de Rosa Bonheur, mais c'est un homme, et il est reconnu comme tel dans la mouvance de l'école de Lyon pour faire des grands bouquets extrêmement ambitieux aussi. Donc, disons qu'il y a porosité dans la peinture de genre. Cela dit, ce qui est parfaitement exact, c'est que c'est très difficile pour une femme, notamment, d'avoir accès à l'éducation artistique.
Et là, voilà, on plonge déjà dans le 19e et dans le style néo-gothique hein, qu'on retrouvait quand même. Faut pas, voilà, hein, c'est quelque chose. Vous allez voir, c'est très atypique parce qu'il y a beaucoup d'animaux naturalisés. Voilà, ça. Et ça ressemble pas à un atelier.
Et alors, comment se fait justement ce choix de peindre des animaux? Parce que finalement, elle aurait pu faire de la peinture d'histoire. C'était le genre le plus noble à l'époque. Elle aurait pu faire voilà, des portraits. Et finalement, comment est-ce qu'elle choisit de devenir peintre animalière, de paysage aussi, on pourrait dire.
Je crois qu'il y a deux raisons. D'abord, elle veut devenir célèbre. Or, elle dit à son père, puis-je devenir célèbre en peignant que des animaux? Et son père lui répond, si Dieu le veut, tu le peux. Donc, elle va choisir un créneau où il n'y a personne, où il n'y a pas de femme. Donc, elle va devenir peintre animalière. D'autre part, je pense, mais ça c'est moi qui le dis, hein, c'est qu'elle ne se sentait pas en sécurité avec les êtres humains. Donc les animaux, elle aime énormément les animaux. Les animaux ne coûtent pas grand-chose, c'est pas comme les modèles. Les modèles, bah, il faut les payer. Est-ce qu'une femme peintre est vraiment respectée par ses modèles? Ce n'est pas sûr. Donc je crois qu'elle est plus tranquille avec les animaux qu'avec les humains.
Un cavalier à cheval. Ils occupent presque tout le tableau. Derrière eux, de l'herbe, une forêt et une bande de ciel voilé. Le cavalier porte un large chapeau, des cheveux longs, une barbiche et une moustache. Une veste beige aux épaules frangées, on dirait du daim, les gants sont assortis. Il est chaussé de cuissardes sombres. Il regarde peut-être le paysage, il semble absent, ses traits sont un peu flous. Il tourne la tête alors que son cheval blanc, très légèrement tacheté de gris, lui nous regarde. Il a l'air de trotter sur le chemin. Ses sabots font un petit nuage de poussière. Peut-être rentre-t-il de promenade. Les crins de sa queue sont soulevés par la brise. Il a les oreilles dressées. Il a l'air fier. On dirait qu'il pose. Portrait de William Cody, dit Buffalo Bill, 1889, huile sur toile, 48 cm sur 37.
En fait, il y a une personnalité qui domine tout le 19e siècle pour la représentation de l'animal. C'est Antoine-Louis Barye, qui commence à triompher au moment du romantisme à partir de 1831. Et il écrase tout. C'est-à-dire qu'il a à la fois un rôle moteur parce qu'il donne ses lettres de noblesse à l'art dit animalier. Il forme beaucoup d'élèves, il donne des orientations fortes, mais en même temps, il recouvre tout. Il empêche d'autres artistes d'exister, sans le faire exprès, évidemment. Et c'était avant tout un sculpteur. Donc ça a fait d'une certaine manière, pour une fois, la sculpture a fait de l'ombre à la peinture. Et ceux qui réussissaient dans ce domaine étaient souvent ses élèves, qu'il formait dans le cadre de cours qu'il donnait au Muséum national d'histoire naturelle. Donc en dehors de cette voie, c'était assez compliqué de percer. Il n'y avait pas d'association d'artistes animaliers. Ça s'est venu bien plus tard, à la fin du 19e siècle. Et finalement, déclarer d'emblée qu'on voulait faire carrière dans ce domaine, c'était pure folie.
Elle se fait une place, mais au-delà de la peinture, c'est dans tout l'art animalier, elle se fait une place extraordinaire.
Damien Colcombet, sculpteur.
Au 19e siècle, il y a une révolution, ce sont les zoos. Les zoos, c'est la grande nouveauté, on a l'impression que ça existe depuis toujours, c'est la grande nouveauté de la Révolution, puisque auparavant, les zoos, les ménageries étaient réservées à des gens importants, des rois, des empereurs, et après la Révolution, on recueille les 4-5 animaux de Versailles, on crée une ménagerie, on recueille les animaux errants ou des montreurs d'ours et autres animaux dans Paris, et puis on crée la ménagerie du Muséum d'Histoire Naturelle. Et là, ça crée un mouvement artistique animalier fantastique. Donc il y a le grand Antoine-Louis Barye qui crée une espèce d'école, sans le vouloir, mais une école extraordinaire de la sculpture animalière. Et il a beaucoup d'élèves. Et on sait que Rosa Bonheur a fréquenté Antoine-Louis Barye puisqu'ils ont exposé notamment la même année au Salon. Ils se sont forcément vus au Muséum d'Histoire Naturelle. Elle était très amie avec Pierre Julemaine, qui était d'abord un ami de son père. Elle était très amie du gendre de Pierre Julemaine, Cain. Donc elle s'inscrit complètement dans toute cette école de l'art animalier figuratif, naturaliste, qu'on a appelé parfois romantique, mais le côté romantique est un peu péjoratif. Et c'est plus fort que ça. Barye, Rosa Bonheur, Frémiet, c'est plus fort que l'art animalier romantique. C'est un art animalier naturaliste.
Et si on devait justement essayer de différencier un peu ce que faisait Barye, ce que fait Rosa Bonheur, qu'est-ce que représentait, qu'est-ce que voulait mettre en avant Barye dans cette sculpture animalière qu'il domine au 19e ?
Je crois que ce qui est intéressant chez Barye, c'est le rapport à la sauvagerie. C'est-à-dire que c'est un univers extrêmement cruel. Donc ce sont des animaux qui s'affrontent, il y a un vainqueur, il y a un vaincu, et le vainqueur mange celui qui est vaincu. Ce qui est intéressant dans l'œuvre de Rosa Bonheur, c'est que ça n'est pas le combat, mais c'est plus le rapport de l'homme avec, comment dire, l'évolution de l'animal. Je veux dire par là que, par exemple, il y a un phénomène très intéressant dans la peinture de Rosa Bonheur, c'est que c'est une fine connaisseuse des races. Pas des espèces, mais des races. C'est-à-dire qu'elle intervient à une époque où la zootechnie, c'est-à-dire la science qui consiste à croiser des animaux pour améliorer les races, et elle est le témoin de ça, et ça la passionne. Par exemple, dans le fameux Labourage Nivernais, son grand chef-d'œuvre qui a vraiment fait beaucoup pour sa célébrité, qui est conservé au musée d'Orsay, il y a là plusieurs bœufs qui sont juxtaposés et chacun correspond à une race qui a été développée à l'époque et chacun a son rôle dans l'attelage. Hein. Donc de ce point de vue-là, elle est extraordinairement connaisseuse. N'oublions pas que si elle a demandé à porter l'habit d'homme, à avoir donc cette autorisation spéciale, hein, cette permission de travestissement, comme ça s'appelait à l'époque, c'était pour pouvoir fréquenter les marchés aux bestiaux. Alors les gens ont dit que c'était un prétexte, moi je ne suis pas sûre de ça. Bon, bien sûr, elle a une personnalité qu'on connaît, avec ce côté comme ça, homasse, un peu lesbienne revendiquée, mais elle avait vraiment besoin d'accéder au marché aux animaux parce que ça lui fournissait des modèles, parce que ça lui permettait de rencontrer des maquignons, mais aussi des obtenteurs, des éleveurs, voilà. Et sa peinture, elle reflète ça, en fait, avec tout l'excès de réalisme qu'avait justement dénoncé Cézanne, par exemple, hein, qui qui disait d'elle, j'ai la citation sous les yeux, c'est horriblement ressemblant.
Une scène de labour. Dans un paysage vallonné, deux attelages de six bœufs, blancs, beiges et roux, se suivent et grimpent une côte pour passer à côté de nous. La toile est imposante, le grand ciel bleu et la lumière écrasent les animaux qui ont chaud. On pourrait presque toucher la terre, tant les modes sont détaillés. Les gestes des bouviers sont légers et joyeux, mais on les distingue mal. Ils sont cachés par les animaux et à l'abri sous leur chapeau. En revanche, on voit mousser l'écume à la bouche des bœufs. Leurs yeux sont exorbités par l'effort et semblent nous fixer. Pour le deuxième animal, peut-être nous saluer. On sent leur fatigue, leur fierté, leur puissance et leur stabilité, qui sont censées être celles de la France éternelle. Le labourage nivernais, 1849, huile sur toile, 1,30 m sur 2,60 m.
Elle a un côté violent, hein. Il y a certains tableaux, des chevaux en furie, par exemple. Ça n'a rien de la féminité traditionnelle, hein. Justement, c'est ça qui est intéressant chez elle, cette synthèse. Enfin, oui, elle a fait une synthèse entre les extrêmes, je dirais, hein. Ce qui est intéressant, c'est son côté patriotique par rapport à l'économie française. Hein, par exemple, ces tableaux où elle peignait des races d'animaux, ils étaient exportés aux États-Unis pour faire la promotion des races françaises. C'est quand même très intéressant. Et un autre aspect aussi de son patriotisme, c'est en 1870, quand il y a eu l'invasion des Teutons en France, elle ne voulait plus du tout parler aux Allemands et elle a commencé à peindre des lions. I used to think it might be fun to be
anyone else but me. On arrive au premier étage, on est sur le palier de ce premier étage et là on a une superbe coupole qui domine cet escalier et sur cette coupole on peut remarquer les initiales de l'artiste, Herbé. Alors ces initiales, on va les retrouver un petit peu partout, au niveau de l'atelier, mais au niveau de la maison. C'est un peu la marque de la réussite de cette femme du 19e en tant qu'artiste animalière.
Et il y a un petit portrait de caniche blanc avec un collier.
Ah, c'est monsieur. Je vous présente monsieur. C'était son nom. Hein. La compagnie des chiens, c'est l'animal domestique qu'elle préférait, qu'elle avait souvent chez elle. Et il y en avait plusieurs. Ça partait du petit Yorkshire, comme vous avez vu tout à l'heure sur le portrait, jusqu'au Saint-Bernard. Et là, vous avez ce superbe lion au crayon. Alors, ces chiens-là, elle les possédait. Ils vivaient ici. Il y avait un couple de lions. Hein, Néron et Fatma, et ils ont vécu 3 ans ici au domaine. Voilà, donc elle s'est vraiment appliquée à avoir ses modèles à elle. Elle possédait énormément d'animaux, une quarantaine qui étaient en liberté ou en semi-liberté. Il y a pas tout ça qui est tard, tout cela a été favorable à leur vie. My lucky number, here they come.
On retrouve dans ce goût de l'animal quelque chose qui remonte vraiment à son enfance, c'est-à-dire à son éducation auprès de son père, le père qui était très investi dans la secte des Saint-Simoniens à Ménilmontant, plus les lectures qu'elle a pu faire des écrits de Lamennais et de toute cette littérature sur le christianisme social, tout ça dans un grand sac, tout ça mêlé dans l'esprit de la jeune femme, aboutit à des croyances qui sont assez répandues finalement dans les milieux artistiques au XIXe siècle, qui sont des croyances qui frôlent la mystique, avec l'idée par exemple pour Rosa Bonheur très nette dans un héritage saint-simonien que on est sur une première fusion qui est une fusion sexuelle de l'humanité, c'est-à-dire une sorte de fusion homme-femme conduisant à l'androgynie, ce qui est une idée finalement beaucoup plus étonnante que simplement l'affirmation qu'on voudrait donner aujourd'hui d'une Rosa Bonheur incarnation de la cause lesbienne au XIXe siècle. Pour elle, à mon avis, c'est bien au-delà. C'est l'androgynie, donc finalement, c'est la sexuation à terme par rapport au rapport homme-femme. Et plus largement, cette espèce d'harmonie qui passe par la négation des sexes dans l'espèce humaine, on la trouve aussi dans une circulation entre l'homme et l'animal. Et on arrive à une espèce de théorie un peu fumeuse qu'on appelait le fusionnisme et qui mêle métempsychose, réincarnation et finalement l'idée que lorsqu'on peint un animal, c'est l'idée de Rosa Bonheur, on en fait un portrait. Et ce portrait, il a la même portée psychologique ou psychique ou que sais-je d'autre qu'un portrait d'homme. C'est-à-dire, du coup, ce que Rosa Bonheur cherche dans l'animal, ça va être finalement cette parcelle d'âme qu'elle croit déceler dans ce système de fusion métempsychose.
Il me tarde de t'avoir avec moi. Nous travaillerons dur. Nous nous lèverons de bon matin pour nous promener au bon air sous les grands arbres. Là, ta sœur imagine parfois voir des géants et des fées, des druides aux longues barbes blanches, des cerfs de Saint-Hubert avec des auréoles autour de leur tête. Bref, toutes les fantaisies que l'imagination peut inventer pour rendre ces heures moins purement animales que celles où l'on travaille, mange et boit. Tu sais comme je me fatigue vite des choses, étant pourtant animée des meilleures intentions. Je pourrais manger tous mes moutons, faire tuer tous mes chiens, sauf Croc qui a la gale, laisser ma maison telle que et partir avec seulement ma boîte de couleurs et le linge indispensable à toutes les femmes, même les sauvages. Bah ma Juju, ça passera. Mais je suis vraiment écœurée dans mon petit royaume. Les souverains sont bien à plaindre. Je pense à toi, pendant que moi, ta sœur stupide avec mon cœur de poulet et mon esprit fantasque ne peut être heureuse. Et pourtant, Dieu m'a donné de quoi. Lettre de Rosa Bonheur à sa sœur Juliette.
On sent que quand elle fait un portrait de Lyon, c'est sans doute sa Lyon apprivoisée qu'elle a peint. Quand elle peint un cerf dans le sous-bois, c'est très probablement son cerf Jacques qu'elle a peint. Mais on s'aperçoit que certes, elle ressent une sorte d'empathie pour les animaux, mais elle pouvait être en quelque sorte assez dure. Par exemple, il a fallu qu'elle tue elle-même d'un coup de carabine son cerf Jacques, qui était devenu dangereux. Les témoins disent qu'elle l'a fait sans s'apitoyer. Est-ce qu'elle allait jusqu'à représenter le sentiment de tel ou tel animal? Peut-être qu'elle le faisait sans le vouloir d'une certaine façon. Difficile tout de même d'étendre ça jusqu'à dire qu'elle faisait de l'anthropomorphisme et qu'elle prêtait des sentiments humains à ces animaux.
Un connaisseur d'animaux, c'est parfaitement individualiser les animaux qu'elle peint. Et de ce point de vue-là, on n'est absolument pas dans le beau idéal. Le beau idéal, c'est quoi? C'est le mythe antique hein, de la beauté qu'on n'arrive pas à trouver. Donc, pour l'obtenir, un peintre, un sculpteur est obligé de mélanger la plus belle cuisse de femme avec le plus beau bras d'une autre femme. Voilà, c'est le mythe des femmes de Corinthe. Chez Rosa Bonheur, il n'y a pas du tout ça. Ce sont vraiment des animaux individuels. D'ailleurs, certains, on connaît leur nom. Et ça, c'est vraiment une invention de Rosa Bonheur. Alors, qui n'est pas complètement unique pour le 19e siècle. Il y a un exemple très célèbre en Angleterre. C'est le fameux Edwin Landseer, qui a fasciné la reine Victoria et auquel elle a commandé énormément de portraits de ces animaux.
Et d'ailleurs, Rosa Bonheur avait rencontré la reine Victoria et avait rencontré Landseer quand elle était allée en Angleterre avec Gambard.
Oui, effectivement. Et ça a beaucoup séduit la reine Victoria de savoir que finalement, il existait une sorte d'équivalent de Landseer en France, hein, et qui plus est une femme.
Inattendu.
On arrive dans l'atelier, effectivement, il est grand.
C'est il est grand, grand atelier.
Un hauteur, voilà, cette grande baie au nord pour avoir une lumière naturelle. On a vraiment une décoration dans le style néo-gothique qui est très marquée, et notamment aussi par tous ces fauteuils hein, faits spécialement pour Rosa Bonheur. Ils sont sur roulettes, la plupart des meubles ici sont sur roulettes.
Oui, mais on voit comme ça pouvait être le cas à l'époque, les ateliers étaient aussi des endroits où on recevait.
On recevait, voilà, c'était fait salon un petit peu. Hein. C'est pour ça que ce n'est pas des ateliers comme nous, on connaît encore à l'heure actuelle. Ça fait salon. Alors, on a des photographies d'époque. Je vais vous faire voir, on a un très bel album.
Parce qu'elle voyageait beaucoup.
Beaucoup, pour l'époque, c'était très rare, mais elle voyageait beaucoup. Le Cantal, l'Aveyron, les Pyrénées, Nice, hein, où elle avait un deuxième atelier à Nice, et une maison de vacances qu'elle louait, qu'elle a achetée par la suite, la Villa Africaine. Donc, grâce à Ernest Gambard, où là, elle rencontrait un petit peu le Gotha, si on veut dire, entre guillemets, l'impératrice Eugénie, la princesse de Salzbourg, voilà.
Oh, the lights are blinking hues, the great deceiver bling bling,
all bets are off. It goes unnoticed, if not for me, it goes unnoticed.
C'est surtout à Nice que en tant que consul, Ernest Gambard va organiser des parties ou des, enfin bref, donc il invite tous les peintres qui vont circuler dans cette maison de Nice. Il va faire venir la famille royale aussi et Rosa Bonheur va y être invitée assez régulièrement. Et c'est lui qui va acheter le marché aux chevaux que Bordeaux, ville natale de Rosa Bonheur, va refuser. Lui, il va l'acheter, je ne sais plus, 50 000 et il va être vendu 250. Enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais voilà. Donc Ernest Gambard va s'associer à Rosa Bonheur et c'est vrai, ça va lui simplifier la vie parce que comme il devient son unique marchand, il va vraiment lui faciliter la vie en vendant tous ses tableaux. C'est lui qui va faire voyager le marché aux chevaux en Angleterre. Il va emmener Rosa Bonheur et Nathalie Micas avec lui en Angleterre et donc ça va être une tournée glorieuse pour Rosa Bonheur.
Et d'ailleurs, on sait que Rosa Bonheur finalement plaisait beaucoup, même s'il a eu beaucoup de succès de son vivant en France, elle a ensuite eu beaucoup plus de succès en Angleterre et aux États-Unis à l'époque de son vivant.
Oui, elle a été très aidée par Ernest Gambard, qui est une espèce d'impresario, hein, si on veut, qui a organisé comme ça des tournées des œuvres de Rosa Bonheur. Donc c'est vraiment une artiste qui s'est exportée partout. C'était moderne. D'autres l'avaient fait. Géricault, après tout, a fait tourner le radeau de la Méduse en Angleterre, ne l'oublions pas. Donc ça n'est pas une nouveauté, mais je pense que c'est lié à une certaine conjoncture internationale de l'époque, c'est-à-dire ça fait partie du rayonnement de l'art français, qui est favorisé par la diffusion des transports, les échanges internationaux, enfin, ça fait partie de la mondialisation dont on sait parfaitement qu'elle a commencé avec la révolution industrielle et même avant. Je pense que son personnage aussi a contribué à fasciner beaucoup dans des pays qui étaient peut-être un petit peu plus tolérants que la France à l'époque, peut-être plus protestants, moins marqués par le catholicisme, hein, catholicisme au sens un peu étroit du terme.
Et vous pensez qu'il y avait peut-être plus d'intérêt pour la peinture animale en Angleterre, aux États-Unis, notamment ces grands paysages sauvages avec ces animaux en liberté qu'elle a pu peindre ?
Alors je pense que là où elle a été très maligne, c'est que justement elle a compris la dimension qu'a la représentation de l'animal, notamment aux États-Unis. Le rapport des États-Unis, des Américains avec l'animal est très particulier parce qu'il est vraiment lié aux grands espaces et à la vie sauvage. Mais ils sont vraiment liés à leur origine de pionnier à la conquête de l'Ouest. Et ça, elle est très maligne parce qu'en rencontrant Buffalo Bill, en représentant Buffalo Bill à cheval, etc., elle a percuté ça. Et ça, c'est vraiment c'est remarquable. En tout cas, pour percer le marché américain, elle s'est fort bien débrouillée.
Je crois qu'elle est de son siècle. Si je peux me permettre, effectivement, parce qu'elle est complètement logique. J'allais presque dire que Gambard, intervenant dans l'histoire de Rosa Bonheur, et finalement court-circuitant Morny à quelques jours, quelques heures, pour l'achat du marché aux chevaux, j'allais presque dire que c'est le symbole d'une lutte privée-publique entre finalement un État protecteur qui fait du salon le lieu du concours et de l'excellence et la réalité économique du salon qui est la vitrine pour pas mal d'artistes pour pouvoir ensuite obtenir des commandes. Et si je dis que elle est de son siècle, c'est que finalement la question du salon, elle devient aiguë dans les années 1860 sur ce thème-là. C'est-à-dire que la révolte du salon des refusés est la première manifestation d'une réclamation globale du milieu artistique qui finalement dit à l'Académie, nous ne considérons plus le salon comme le lieu du concours entre les talents qui formeraient une école française toujours vivante, donc ça c'est l'illusion romantique finalement attachée au salon, nous considérons que le salon est le lieu de l'expression de notre création artistique avec les enjeux économiques que ça signifie. D'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que finalement cette lutte entre Gambard et l'État donne le résultat qu'on connaît avec Rosa Bonheur, c'est-à-dire que Rosa Bonheur, trouvant le marchand privé susceptible d'assurer le succès de son œuvre et donc la vente d'un certain nombre de ses œuvres, elle n'a plus besoin du salon. D'une certaine manière, elle s'affranchit du salon avant la révolte des refusés et finalement l'ouverture très très large du salon à la fin du Second Empire. Elle a trouvé sa voie autrement et avant tout le monde. C'est tout le paradoxe aussi, pour réussir à connaître l'œuvre de Rosa Bonheur aujourd'hui, c'est que À partir de l'achat du marché aux chevaux, le marché aux chevaux tourne en Angleterre. Il fait un succès absolument retentissant à Londres. Ce qui fait que les tableaux dans les années 1860, 1870, 1880 de Rosa Bonheur, les tableaux achevés et destinés au marché de l'art, sont massivement destinés à la vente en dehors des frontières françaises, dans le monde anglo-saxon, Angleterre, États-Unis, mais aussi dans le monde allemand. Et du coup, les œuvres abouties de Rosa Bonheur, on les trouve surtout dans des collections étrangères.
C'est un grand tableau, plein à craquer. Au fond, un ciel nuageux et quelques cimes d'arbres, et devant une quinzaine de chevaux qui remplissent la toile. Ils sont solides, les ombres sont imposantes. Ce sont des percherons, bruns, noirs, blancs et gris, aux postérieurs paumés. Les queues sont nouées comme de gros chignons. Ils caracolent dans un joyeux désordre. Certains ruent, d'autres se cabrent ou galopent. On voit les muscles rouler sous les robes. Des silhouettes d'hommes les montent. D'autres tentent de les maintenir, mais peine perdue. On voit voler la poussière. On entend les sabots sonner sur les pavés couverts de paille. Les crinières volent. Et certains nous cherchent du regard, comme pour nous avertir. Le marché aux chevaux, 1853, huile sur toile, 2,40 m sur 5 m.
Alors peut-être on peut évoquer un autre moment important, c'est l'année où elle reçoit la Légion d'honneur par l'impératrice Eugénie. Donc, et puis souligner aussi qu'elle est finalement appréciée aussi bien des républicains que de l'Empire, que de la monarchie. Tous les régimes l'ont appréciée.
Tous les régimes l'ont appréciée. Elle était plutôt républicaine de tempérament, mais elle est probablement la petite fille de sang royal. Donc les têtes couronnées l'ont beaucoup soutenue aussi. Elle était très proche des têtes couronnées. Alors l'impératrice Eugénie avait beaucoup d'admiration pour Rosa Bonheur et elle a obtenu qu'elle soit la première artiste décorée de la Légion d'honneur, donc 1864. Et ensuite, Sadi Carnot, 1894. Si mes souvenirs sont bons, Sadi Carnot, donc elle ce sera la première femme à recevoir donc, le deuxième niveau de la Légion d'honneur.
Oui, mais moi je ne pense pas qu'elle soit du côté du Second Empire, parce que la Légion d'honneur, c'est un acte politique de l'impératrice Eugénie. Elle rejoint en fait Marie-Antoinette en lui donnant la Légion d'honneur. Moi je trouve qu'elle fait partie vraiment du féminisme étatique. Comme on le voit aujourd'hui, enfin, ce sont des pionnières du féminisme étatique. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'elle soit du côté de l'Empire, je ne pense pas. Toute sa vie, c'est plutôt quelqu'un qui est proche du peuple, qui est proche des travailleurs, si je puis dire. Hein. D'ailleurs, elle se décrit comme une travailleuse, levée à 6 heures à l'aube, et puis elle se met au boulot. Hein. Moi, je pense que, comme c'est une femme qui a décidé de faire la carrière et puis de développer le commerce des tableaux, elle avait besoin de ces liens avec l'aristocratie, c'est-à-dire là où il y a l'argent.
Elle plaît à tous les régimes, donc finalement, elle est très consensuelle.
Elle est totalement consensuelle, parce que le labourage nivernais est une œuvre qui est une sorte d'hommage saint-simonien. Donc on est bien sur l'idée un petit peu messianique de la révolution de 48. Elle dit elle-même, mes bœufs nivernais, ce sont ces bœufs qui nourrissent l'humanité. Donc là, on est sur un lyrisme à la Lamartine qui colle bien à la Deuxième République. La fenaison en Auvergne, c'est cette France traditionnelle qui plaît au régime bonapartiste. Après tout, ces sujets sont suffisamment déconnectés du discours politique pour qu'elles ne soient pas en porte-à-faux avec les différents régimes.
Mais finalement, on ne sait pas trop où la situer.
Oui, mais je pense que ça fait partie de ces personnalités fortes qui n'ont pas forcément d'affirmation politique, en tout cas dans l'exercice de leur art. Et il y en a pas mal aussi au XIXe siècle, précisément. Pour moi, elle en fait partie. Sans doute vit-elle un petit peu en ours, elle le dit aussi comme ça, habit, mais en même temps, elle reste sensible aux honneurs.
Oui, elle est donc, très mondaine, parce que pendant qu'elle est habit, elle va aussi passer l'été à Nice.
Oui, absolument.
Là, c'est des fêtes incroyables, des réceptions, des mondanités excessives.
Je pense que c'est quelqu'un, effectivement, qui garde cette espèce d'ambivalence. Elle est consensuelle à tous les niveaux. Consensuelle au niveau de son art, elle est consensuelle au niveau des relations qu'elle peut avoir, elle est consensuelle aussi dans sa vie personnelle, et là, c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais revendiqué ses choix personnels, et on trouve pratiquement aucune mention de sa vie personnelle. Il y a une espèce de, là aussi, de consensus dans un non-dit, et qui reste un non-dit, à mon avis, assez facile à comprendre pour qui veut bien comprendre, mais ça ne fait pas partie de son discours. Elle n'en fait vraiment jamais état. Et c'est en ça aussi qu'elle est probablement très consensuelle. Elle a choisi ce genre de vie, et puis on en reste là.
C'est donc l'artiste, Mademoiselle Rosa Bonheur. C'est un tableau fait par Anna, donc sa deuxième compagne. Anna Klumke était une excellente peintre portraitiste. Donc là, vous avez Rosa Bonheur à l'âge de 77 ans.
Alors là, on la voit justement dans sa tenue d'homme.
Ah, oui.
Alors, est-ce que vous nous la décrire ?
Alors, on a une femme très petite, 1m60. On a une femme avec un visage plutôt masculin, il faut dire, les cheveux donc gris, les cheveux courts, un peu à la Chopin, voilà. Elle a ses chemises à col officier, elle a cette grande blouse bleue de travail et en dessous donc ce fameux pantalon que l'on voit très bien sur ce portrait. Alors pour porter le pantalon 19e, une chose que très peu de personnes savent, c'est que le pantalon, pour ces femmes au 19e, il fallait demander une permission de travestissement. Voilà, on présente quelques effets personnels de l'artiste. On ne peut pas tout mettre, bien sûr. Donc, on retrouve des fioles, des fixateurs, des blanchines et autres. Sa tabatière, elle fumait énormément. Donc, vous voyez, on retrouve encore même les petits mégots qui sont restés ici.
Rosa Bonheur a 14 ans, Rosalie, ouais, elle s'appelle Rosalie, a 14 ans, et Nathalie a 12 ans. Alors moi je dis toujours, elle n'a pas rencontré Nathalie Mika, elle a rencontré la famille Mika. Et il y a la fille Nathalie Mika, qui est d'ailleurs condamnée à l'époque. Les parents veulent faire son portrait parce qu'on estime qu'elle est en très mauvaise santé, qu'elle va bientôt mourir. Et Rosalie va être frappée par la ressemblance de Nathalie Mika avec sa mère. Mais c'est important de dire que c'est la famille Mika qu'elle rencontre et qui va l'adopter. Donc Rosa Bonheur décide de quitter... alors, elle ne quitte pas sa famille, elle n'en a plus. Sa mère est morte, son père vient de mourir, elle va certainement pas vivre avec sa belle-mère qu'elle déteste. Donc elle va décider de se faire adopter par la famille Mika et elle va aller vivre chez les Mika. Donc il n'y a pas d'abandon de famille. Et en plus, elle dit dans son testament qu'elle a toujours subvenu aux besoins de sa famille. Elle a entretenu non seulement sa belle-mère, mais aussi sa tante, qui n'avait pas d'argent. Elle va payer les dettes de son père, elle va donner... Et après, les frères Isidore, Auguste et Juliette, Juliette va se marier, Auguste aussi, ils vont vivre et vont gagner leur propre vie. Donc elle n'abandonne personne. Alors, il faut dire aussi qu'au 19e siècle, les femmes, quand elles se retrouvaient seules, très souvent, elles s'associaient. On appelait ça le matrimoine, et c'était pas forcément homosexuel, c'était simplement des femmes qui, parce qu'une femme ne pouvait pas vivre seule sans danger au 19e, eh bien, elles partageaient le même logement, elles se léguaient leur fortune, elles partageaient les frais pour pouvoir s'entraider dans la vie. Ça se faisait aussi beaucoup. Elle va vivre dans la famille Mika jusqu'à ce que la mort les sépare, c'est-à-dire avec Madame Mika et avec Nathalie Mika. Madame Mika va mourir dans les années 70. Elle va demander, d'ailleurs, quand elle va arriver à Tomri, à cette famille de la suivre. Et les Mika vont la suivre. Et après, Madame Mika meurt et là, elle vit avec Nathalie Mika. Et Nathalie Mika va mourir et là, elle va vivre seule pendant 10 ans jusqu'à sa mort, moins 9 mois, puisque Anna Klumke va arriver à ce moment-là.
Dans votre livre, justement, ça, c'est important, vous y consacrez un passage assez développé, c'est cette question de l'homosexualité de Rosa Bonheur. C'est-à-dire, pour vous, Rosa Bonheur n'est pas lesbienne. Elle ne sera ni l'amante d'Anna Klumke, ni celle de Nathalie Mika.
Je ne vois pas pourquoi on lui collerait une étiquette qui n'est pas la sienne, quel que soit l'honneur de cette étiquette et la beauté de cette étiquette, ce n'est pas le problème. D'ailleurs, elle le dit, ceux qui pensent ça n'ont rien compris. C'est une union d'âme. Dans son testament, Rosa Bonheur écrit « Je jure d'être restée pure ». Alors pure, on peut aussi gloser sur ce que veut dire le mot pure. Enfin, si elle avait été l'amante d'Nathalie Mika et Anna Klumke, elle n'aurait pas dit ça, elle aurait dit autre chose.
Vous voyez les photos, par exemple, c'est vraiment le couple bourgeois avec le petit chien sur les genoux. Elle, elle est debout, son épouse est assise sur la chaise avec le petit chien sur les genoux. Ça, c'est quand même extraordinaire. Par exemple, quand elle dit aussi « Comme Rachel, comme George Sand et tant d'autres, j'aurais pu assurément profiter de la tolérance dont bénéficie vis-à-vis de l'opinion des femmes qui se distinguent dans les sciences et dans les arts. Et l'on aurait pu dire de moi tout ce que l'on eût voulu. » Au lieu de cela, j'ai toujours mené une vie honorable. Je suis restée pure et je n'ai jamais eu ni amant ni enfant. C'est extraordinaire, hein. Je suis restée pure, hein. Comme si la sexualité avec un homme, c'était sale, hein, franchement.
Ce sera une leçon de musique. Ah, on dit que tu te maries. Mais quelle drôle de manie en toutes les jeunes filles de vouloir se marier. J'aurais pu, moi qui vous parle, mais j'ai fui la promiscuité impudique des intimités conjugales. Oui, moi, je suis restée demoiselle. Et bien contente, croyez-moi, bien contente de l'être.
Alors, Anna Klumke, il faut aussi se représenter l'affaire. Quand elle arrive dans la vie de Rosa Bonheur, Rosa Bonheur est à un an de sa mort, donc à 76 ans, et Anna Klumke en a 43. Bon, moi, là, c'est enfin, quand même difficile de... Alors, tout le monde dit, ah oui, mais juste, ah, bon, elle se rend compte et hop, elle se met à vivre ensemble. Mais c'est absolument faux. Quand Nathalie meurt, en 1889, Rosa Bonheur va vivre seule pendant presque 10 ans. Alors c'est vrai qu'en octobre, Nathalie meurt en juin 1889. En octobre, Anna Klumke rencontre pour la première fois Rosa Bonheur. Et Rosa Bonheur, c'est l'idole de Anna Klumke. Et après, il va y avoir une correspondance entre les deux femmes qui va durer à peu près 9 ans. Et à un moment, un jour, en 1898, Anna Klumke écrit d'Amérique à Rosa Bonheur: s'il vous plaît, laissez-moi faire votre portrait, parce que si je fais le portrait de Rosa Bonheur, ça va m'aider dans ma célébrité. Elle est déjà bien connue, hein. Et Rosa Bonheur accepte. Donc, en juillet ou en juin 1998, Anna Klumke arrive au château de Bie pour faire le portrait. Et Rosa Bonheur va mourir en mai 99. Voilà.
Alors, elle est souvent revendiquée aussi, Rosa Bonheur, comme un lieu de mémoire ou comme une figure de l'histoire de la cause lesbienne. Est-ce que pour vous, Rosa Bonheur, elle était lesbienne ?
Oui, parce qu'elle a eu une aventure érotique avec Madame Carvello. Et ça, c'est Daniel Ding qui cite les lettres en 1865. Et ça a failli faire éclater le domaine de la parfaite amitié à Thomery. Elle écrit dans une lettre, elle a dit « Le vieil Adam est fort en moi ». Il est possible qu'elle ait eu aussi d'autres aventures, hein, on n'en sait rien. Mais elle tenait absolument à avoir une image de pureté. Hein. Ça, c'est évident, elle ne voulait pas qu'on la salisse. Parce que n'oubliez pas qu'à cette époque-là, c'est les femmes damnées. Hein. C'est Baudelaire, hein, les lesbiennes. Hein. Les femmes damnées, c'est quoi? C'est exclu de la cité. Ce sont des perverses. Hein. Donc il y a une image des lesbiennes qui est vraiment très 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 négative, et elle ne tient pas à être associée à cette image-là, mais en même temps elle défend son couple, je pourrais dire, avec Nathalie Mikas.
Oui, parce que c'est une très longue histoire, ce couple.
Ah bah 58 ans de vie commune, c'est quand même pas mal, hein. Il y avait la mère aussi, la mère de Nathalie, qui vivait avec elle. Donc c'est vraiment un mariage bourgeois tout à fait traditionnel. Nathalie s'occupe de l'intendance, elle s'occupe des animaux, elle s'occupe des repas, etc., avec sa mère.
Elle prépare les toiles.
Exactement. Et puis, Rosa, eh bien, elle peint. Mais c'est quand même une femme pure, vous voyez, l'affection divine. D'ailleurs, elle a fait graver sur sa tombe, où elle est enterrée avec Nathalie Mikas et Anna Klumke, hein, elle a fait graver « L'amitié, c'est l'affection divine ». Ah oui, donc on est vraiment en plein dans les sphères célestes. Hein.
Elle voulait que sa mémoire soit préservée. C'est pour ça qu'elle va demander à Anna Klumke d'écrire sa vie. La première grande biographie de Rosa Bonheur a été écrite par Anna Klumke, 1902 ou 1903. Voilà. Donc elle va léguer ses biens à Anna Klumke, qui va passer donc une partie de sa vie à promouvoir la mémoire de Rosa Bonheur.
Dans son testament, elle dit: quant à mes deux neveux, ce sont des hommes solides et bien portants. Ils n'ont qu'à faire comme moi, car les hommes ayant la force physique ne doivent pas, s'ils sont fiers et braves, compter sur l'héritage d'une femme dont le travail a souvent été interrompu par les conditions de son sexe et qui ont fait avec raison penser aux hommes justes et dignes de ce titre que l'homme est fait pour travailler pour les femmes et les enfants. Mais hélas, les femmes ont souvent été obligées de les remplacer quand ils manquent à leur devoir. Ah, c'est magnifique comme lettre. Et puis dans un autre passage, elle dit « Bien des auteurs de talent ont écrit à mon sujet une foule d'anecdotes. Malheureusement, mes biographes ont toujours laissé dans l'ombre l'amitié que j'ai éprouvée pour ma chère Nathalie et le culte que j'ai voué à la mémoire de ma pauvre mère. À ceux qui m'interrogeaient, j'ai toujours répondu avec la plus entière bonne foi. Cependant, je ne pouvais jamais oublier que je parlais à des hommes. Si je vous ai choisi, elle parle à Anna Klumke, pour être mon interprète auprès de la postérité, c'est parce que vous êtes une femme et que je puis m'ouvrir à vous avec une confiance plus entière. Vous comprendrez que Nathalie et ma mère ont formé à elles deux mon étoile polaire. Vous saurez exprimer mes pensées avec toute la délicatesse qui est le privilège de notre sexe. D'autre part, vous appartenez à la nation américaine, ça c'est très important, cette ouverture vers les États-Unis. C'est là que la femme occupe depuis longtemps la situation exceptionnellement favorable que j'ai toujours rêvé pour mes sœurs françaises. Mon féminisme et mon costume ne sont pas faits pour vous surprendre. Vous en expliquerez facilement les causes. Je vous dirai tout, je ne vous cacherai rien. Je ferai comme la dévote devant son confesseur.
On a des superbes œuvres, notamment celle-ci que vous voyez ici, donc Les chevaux inachevés. C'est le dernier tableau que Rosa Bonheur va commencer l'année de sa mort en 1899. Donc ce tableau est inachevé, il est resté tel que depuis 1899. C'est
donc
fantastique.
Là, c'est un troupeau de chevaux sauvages.
Hein. Voilà, une cavalcade de chevaux. Voilà. Ça, c'est super. Il est signé. Très bien, vous avez vu la particularité. Elle n'était pas bête.
Merci à Marie-Jo Bonnet, Marie Borin, Damien Colcombet, Emmanuel Héron, Christelle Leboeuf et Philippe Luez. Merci aussi à Nicolas Sorel de Gerine. Prise de son, Patrice Klein. Mixage, Jean-Michel Bernot. Rosa Bonheur, peintre animalière ambitieuse et femme à facettes. Une émission de Perrine Kerbrand, réalisée par Clotilde Pivin.
C'était Toute une vie, une émission proposée par Anaïs Quien avec Sylvia Favre. Retrouvez l'émission, ses podcasts et ses bonus sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr.